Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blau au micro en ce jeudi 20 février 2025. Voilà, ceux qui sont allés au travail ou bien qui viennent de sortir du travail, ceux qui doivent retourner à la maison ou bien ceux qui vont à l'épicerie, tout ça à Montréal, je dis bien, ou bien d'autres villes du Québec, de la province de Québec. Faites très attention, tous les trottoirs ne sont pas encore nettoyés. Alors, voilà, il y a des voitures qui sont totalement englouties sous la neige. Faites très attention. Il y a quelques rares trottoirs qui ont eu la chance d'être nettoyés. Bon, ben, les piétons peuvent tranquillement marcher sans problème. On est encore dans le mois de l'histoire des Noirs, c'est pas encore fini, c'est jusqu'à la fin du mois de février. Et il y a beaucoup d'événements qui se passent, je l'avais dit. Et comme je le dis depuis le début du mois, allez-y sur le site Histoire Mois des Noirs, moihistoiredesnoirs.com. Vous allez trouver toute la programmation là-bas. J'ai un invité avec mon studio qui fait partie de cette programmation. Il a un événement le 28. Mais avant d'aller parler de cet événement, on va parler de son parcours artistique. Voilà. Mais un petit son. Vous allez entendre un peu sa voix d'abord avant de lui donner le micro. Je lui ai même pas encore dit bonjour en onde. Allez, on l'écoute.
Cette histoire se passe dans le village nommé Takadja. Takadja était situé au pied de la montagne sacrée. Yao, la montagne sacrée. Yao était sacré pour les habitants de Takadja car l'herbe qui poussait sur ses flancs était bleue. Bleue comme le ciel, bleue comme les yeux de tous les habitants de Takadja.
Entendu la voix, la musique, tout ça. Bon ben, je suis avec lui en studio. C'est un artiste multidisciplinaire, comédien, musicien, conteur, slameur, auteur. Hier, je l'ai appelé pour lui demander comment il aimerait bien que je le présente.
C'est vrai que...
Franck Sylvestre. Mais ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, toi et moi.
C'est vrai. Salut Fulgence.
Ah ouais. Content de te revoir.
Merci. Merci de m'inviter.
Alors, c'est tout un plaisir de te revoir. Et puis, bon, ben, de venir parler un peu à nos auditeurs de ton parcours artistique. Et on va mettre l'accent aussi sur tout événement auquel tu participes, ou bien ta soirée là, qui aura lieu le 28.
Mm-hmm.
Tu es prêt?
Écoute,
c'est dans 8 jours. Hein.
C'est dans 8 jours, oui, j'ai encore un petit peu de temps. Seulement, c'est juste que j'ai tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans mon calendrier. Mais c'est un spectacle que j'ai quand même pas mal joué. Mais bon, il y a toujours un espace de réappropriation, de réchauffage qui est important. Si je suis prêt, je le saurai ce jour. Mais oui. Hein, on finit toujours par être...
T'es un vieux de la vieille.
Je suis un vieux de la vieille.
Je sais pas, c'est mon métier, quoi. Voilà.
Oui,
dans le milieu culturel,
j'adore cette expression, vieux de la vieille. Je sais pas c'est qui la vieille, là. En tout cas, c'est moi le vieux. oui, Fulgence, c'est toujours un plaisir. Ça fait longtemps hein, qu'on se rencontre, qu'on se croise.
Ah oui, qu'on se connaît. Oui,
ouais.
C'est vrai.
Et puis, écoute...
Franck Sylvestre, il est né à Drancy, en France.
Exact.
Et lui, je ne sais pas comment, est-ce qu'il se dit martiniquais? Ce sont ses parents qui sont martiniquais. Lui, il est né en France.
Et je suis né en France, ben oui, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. On est nombreux comme ça.
Ah oui, il y a plein comme ça. Après ses études en théâtre à Paris, il arrive à Montréal en 1995. Mm-hmm. Ça ne fait pas deux jours, hein?
Et non, c'est ça.
Il y a des gens ici en studio avec nous, juste à côté là-bas, peut-être qui n'étaient pas encore nés. Samuel, tu étais né?
J'avais un an.
C'est fou, hein? J'ai vécu plus de temps à Montréal qu'en France.
Voilà. Samuel, c'est mon complice à la console. C'est lui qui nous coupe le micro, il nous donne le micro. Alors. Et tu as poursuivi en 98 ton parcours scolaire en création littéraire à l'Université de Québec à Montréal.
Oui, j'avais besoin de...
Parle-nous un peu de ça, s'il te plaît.
Oui, c'est ça. Écoute, moi, j'avais besoin de retourner sur les bancs d'école. J'adore apprendre. J'adore. J'ai toujours été, je suis resté très curieux, très... La gymnastique du cerveau, là, je l'aime. Autant que la gymnastique physique, alors me retrouver dans une situation de création obligatoire, c'était génial. Alors, et puis d'aller prendre des outils pour me renouveler, pour essayer de mettre à jour un peu dans la... Parce qu'on écrit, on crée avec ce qu'on est, avec notre bagage, mais là, de retourner dans un contexte de lecture obligatoire, dans un temps donné, de production obligatoire, dans un temps donné, j'adore cette... j'aime bien créer avec des timings précis dans ma vie. Et puis là, bon.
Tu te l'imposes.
Je me l'impose, oui, ou je me mets dans ces situations-là, professionnellement. Alors là, passer un an dans ce contexte-là, ça m'a permis de me réchauffer, d'aller explorer des zones que j'avais pas, parce que c'est dans des contextes de travaux obligatoires, imposés. Alors trouver sa liberté dans des choses très strictes, ça m'a fait du bien.
Ouais. Avant de continuer, qu'est-ce qui a fait que tu es parti de la France?
Oh ben...
C'était la curiosité, voir autre chose, vivre autre chose. Tu t'es fatigué de rester à Paris parce que tu as fait tes études de théâtre à Paris.
Ouais.
Tu as connu tout Paris de A à Z. Tu as dit non, j'ai plus rien à découvrir ici, je vais ailleurs.
Ouais, j'ai fait plusieurs fois l'alphabet à Paris. J'ai fait plusieurs fois l'alphabet, je te jure. Mais écoute, à un moment donné, c'est les hasards de la vie. Si j'ai eu l'occasion de venir ici en voyage, en vacances, au départ, c'est ça. J'ai passé 2 ou 3 ans à faire l'aller-retour, à venir passer.
J'avais des amis ici.
J'avais des amis, puis de plus en plus d'amis, et puis des occasions de m'exprimer professionnellement, faire des petites choses, et puis ça. Et puis à un moment donné.
C'était une manière de tâter le terrain, quoi.
Oui, et puis j'ai tâté sans le savoir, en fait, tu sais, à un moment donné.
Inconsciemment.
À un moment donné, j'ai réalisé que, mince, ça fait un an que t'es là. Ah ouais, tiens, j'ai pas vu l'année passer, et puis on me proposait des choses, alors...
Ouais, mais donc c'était pas dans le but de rester, au fait,
non,
dans un premier temps.
Dans un premier temps, vraiment.
C'est arrivé
pas.
Comme ça.
Ouais, j'ai suivi le courant, puis c'est ça, à un moment donné, j'avais plus de billets d'avion de retour, j'avais plus de papier, j'avais plus de permis de séjour, rien, c'est comme...
À l'époque, c'était pas si compliqué que ça.
C'est fou, hein.
À l'époque, c'était pas si compliqué que ça, maintenant, tu peux pas te permettre,
là. Tu peux pas te permettre ça, c'est bien pour ça que j'ai vécu oisivement comme ça, puis personne m'embêtait, alors, tu vois, alors dis bon, ben à un moment donné, j'ai fait mes... Voilà, la résidence permanente, et puis même avec la résidence, je suis resté des années juste avec la résidence avant de faire ma citoyenneté.
Mais si tu n'avais pas envie de voter, tu n'as pas besoin de la citoyenneté, au fait.
Oui, non, c'est ça.
C'est
ça,
tu as tous les droits qu'un citoyen, sauf...
Le droit de vote.
Le droit de vote.
C'est ça. Mais tu sais, c'est mon premier enfant qui m'a forcé à être citoyen. Hein.
Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Il m'a rien dit, mais c'est juste le fait d'être là. J'ai réalisé que lui était canadien, québécois canadien officiel.
Oui, il est né ici.
Et puis pas moi. Il dit, il faut au moins qu'on soit dans
le même. Il allait te poser la question plus tard.
Ah c'est oui, clair. C'est ça.
Mais c'est pas, je vais pas être à ta place quand en train de répondre.
Non, je voulais pas être à cette place-là non plus. Alors, et puis je l'ai fait devenir français. Et puis moi, je suis devenu canadien.
Tu l'as naturalisé.
Oui.
Est-ce que tu avais besoin de le naturaliser, puisque tu es français,
ton fils, oui.
Parce qu'il est né ici,
oui.
Ou bien tu le laissais jusqu'à 18 ans pour qu'il te fasse son choix, quoi.
Ben non, parce qu'à 18 ans, c'est trop tard, là, ça complique.
Ah.
C'est ça. Tant qu'il est mineur...
Tu le naturalises,
simplement,
tu le fais naturaliser.
C'est ça, c'est une formalité, une inscription au formulaire des Français.
Ok.
Voilà, il faut finir des documents, mais c'est juste une formalité. Il paraît, j'ai pas été voir, mais qu'à 18 ans, là, c'est beaucoup plus compliqué.
Ça devient compliqué.
C'est ça. Alors, je ne voulais pas non plus qu'il me pose la question.
Oh là là. Tu vas lui faire écouter cette partie de l'émission-là,
oui.
S'il te plaît.
Oui.
Alors, c'est comme ça. Ouais, mais moi aussi, moi, je n'étais pas arrivé comme ça tout d'un coup. Je suis arrivé, je suis venu en vacances ici en... passé 4 semaines de vacances d'abord, en 2003.
Mm-hmm.
Oui. Je suis tombé amoureux de Montréal et puis je suis retourné en Europe, en Suisse, où je vivais à l'époque. Et puis, j'ai fait ma demande de résidence permanente, qui allait très vite à l'époque. Hein.
Oh,
moi, j'avais réuni tous mes papiers, tout ça, ça allait très vite à l'époque.
Oui, oui.
Très, très, très vite. En moins de 3 mois, j'avais tout. Hein. J'étais résident permanent, j'ai tout eu. Puis, il fallait se préparer pour le voyage, le déménagement.
Ah oui, c'est ça. Oh, donc, tu l'as fait avant d'arriver.
Ah oui, non. Moi,
dans les règles de l'art.
Je suis, je ne vais pas quelque part comme ça.
Ah oui.
Je n'ai jamais...
Il y a un Romain Michel comme moi. Non, là. Non, non.
Mais c'est ce qui fait que je t'ai venu en vacances d'abord. Pour voir comment est-ce que ça allait me plaire.
Ah oui, hein. Ah oh là là.
Moi, je fais pas une demande, je m'en vais quelque part comme ça sans savoir où je vais.
Là. Ah oui, c'est ça.
Que j'aille visiter d'abord. Là.
D'accord.
4 semaines septembre 2003, et puis je suis tombé amoureux de la ville de Montréal.
Mmh. Ah non, allez, c'est.
J'ai trouvé le petit flair européen quand même.
Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Ouais, ce petit quelque chose.
Oui, c'est ça. Il y a comme un entre-deux qui est,
voilà.
Qui est vraiment...
Voilà. Donc, ça m'a permis d'être là. Et puis, non, c'est ce qui fait que je te... Quand tu as dit, ah tiens, je venais des vacances, je repartais.
Ouais.
Ça m'a fait penser à moi, quoi. Bon, à peu près, mais je ne restais pas des... Je n'ai pas fait 2, 3, 4 fois. C'était une seule fois. Ça me suffisait pour prendre la décision, quoi.
C'est ça.
Voilà. C'est comme ça que... Donc, je me suis un peu retrouvé dans ce que tu as fait. Mais moins que tu as, moins de temps. Voilà, une semaine. 4 semaines de vacances, septembre 2003. Moi, il faisait beau en plus. Ouais.
Oui,
voilà, ça a été. J'étais en colocation quelque part. Et puis bon, c'est pas pour ça que je t'ai invité. C'est une parenthèse que je voulais faire. Alors, cette histoire de conte et autres, là, en te présentant, j'ai dit comédien, musicien, conteur, slammer, auteur. Pourquoi est-ce que tu as mis beaucoup plus d'accent sur le conte que les autres branches de l'arbre?
Ouais, écoute, c'est vrai, hein. C'est vrai.
J'ai l'impression que le conte a pris toute la place.
Il a pris toute la place, oui. Il a pris toute la place. Il en laisse un petit peu aussi. Et il permet de...
Aux autres aussi de...
Oui, de s'exprimer. Et il contamine les autres.
Oui.
C'est ça que j'aime avec le conte. Il contamine. C'est comme... Le conte, c'est comme un art fondamental. J'ai découvert ça avec le temps. C'est... Je ne sais pas où est-ce qu'on remonte.
Quand est-ce que tu as senti que tu étais quelqu'un qui pouvait conter des histoires à des enfants et aux adultes?
Je ne l'ai pas senti, on m'a poussé.
Explique-nous un peu. Explique-nous un peu.
On m'a poussé.
Oui, explique-nous un peu.
Ce n'est pas passé très loin, c'est de l'autre côté de la rue, le festival Vue d'Afrique.
Oui.
Voilà.
À l'époque.
À l'époque, oui, festival Vue d'Afrique. Moi, j'avais commencé avec un solo. J'avais pris un livre et puis il se trouve que c'était un conte. Mais moi, je n'ai pas fait exprès. Je voulais juste avoir un propos. Je voulais juste avoir des personnages intéressants et interpréter le tout théâtralement. Moi, je suis formé en théâtre, donc je voulais monter un solo de théâtre à la mode de Philippe Cobert, un comédien français à l'époque qui faisait des solos incroyables de 2h30, puis il en avait 10 solos comme ça de 2h30, puis je pensais en rotation. J'étais impressionné par cet acteur-là. Il dit, bon, ben, moi, je vais monter un solo de 30 minutes pour commencer. Alors, j'en ai monté un de 30 minutes et je suis arrivé avec ce solo-là qui s'appelle l'histoire de Kouloumé et ses frères. Et c'est un conte africain, mais moi, je l'interprétais.
Écrit par qui?
Oh, c'est la tradition.
Ok, d'accord.
La tradition, oui, Afrique du Sud... Et puis voilà, quelqu'un de Vue d'Afrique a vu ce solo quelque part et puis il m'a identifié comme conteur, mais moi c'était du théâtre, pour moi c'était pas du conte.
Il t'a identifié, c'est ce qui fait que tu dis qu'on t'a poussé.
Oui, voilà. Et puis
toi tu ne t'identifiais pas du tout comme un conteur?
Non, pas du tout.
Tu jouais?
Je jouais, c'est ça, voilà. J'ai pas encore compris cette différence de quatrième mur et puis de communication. C'était du théâtre pour moi, j'étais en cercle fermé, j'interprétais les personnages. Le personnage central du conteur, c'était un personnage aussi. Je jouais le conteur, je ne comptais pas. C'est ça la différence. Les comédiens jouent tout ce qu'il y a à jouer, ils le jouent.
Ouais. Mais oui, tu as une formation pour ça.
Voilà.
Ouais, tu as fait l'école du théâtre de Paris. Ouais.
Voilà. Mmh. Et donc, on me propose d'aller faire des tournées scolaires pour représenter Vue d'Afrique à travers les...
Comment tu as réagi?
Oh, moi j'étais très content parce que on me proposait du travail. Écoute. Seulement, bon.
Franck Sylvestre. Oui. Je me suis dit, j'ai vu son visage, j'étais très content.
Oui, écoute, au Québec, on me propose un contrat d'aller traverser la province pour aller rencontrer des classes. Et puis... Mais seulement, j'ai rapidement compris qu'il me fallait un répertoire.
Il me fallait un répertoire. Parce que le seul conte ne suffisait pas.
Non, puis il était trop long pour les moments scolaire et puis c'est pas le format, ça rentrait pas dans des classes. Alors je me suis construit, j'ai trouvé des petites histoires dans le répertoire afro.
C'est de là qu'est partie de la création aussi, quoi. Voilà. Ça commence pas vraiment.
Non, pas vraiment. Écoute, là, parce que là on est vraiment dans le trouver le conteur en soi. Moi je me suis retrouvé devant des petites classes de primaire et puis je jouais trop. J'étais pas en train de raconter.
Il fallait raconter l'histoire.
Juste la raconter. Je sortais des classes transpirantes.
Tu sais, dans les villages en Afrique, au clair de lune, comme on dit souvent, autour du feu, quand les grands-parents racontent des histoires, non, ça ne joue pas, ça raconte.
Mais oui, c'est ça.
Ça berce les enfants.
C'est ça.
Puis ça, surtout quand tu parles des... La plupart des contes africains, il y a les animaux sauvages là-dedans.
Les lièvres, les lions, les monstres.
Les enfants, les yeux écarquillés comme
oui,
ça.
Oui, c'est
Allez,
ça.
Allez, on t'écoute encore. On va à la musique.
Ciel d'automne, pluie monotone, m'a trempé jusqu'aux os, la conne. Échoué à la maison, enlevé ma peau de poisson, chauffé de l'eau pour un thé. L'été s'est terminé, game over pour cette année. Sans pitié pour la beauté, le vent a dévasté les parures de fête. Que l'été des Indiens a confié aux grands frères de la nature. À part les épinettes, tout le reste est squelette, vaincu, nu, mais droit comme des rois. Les idées, une fois mon afro séché, je l'ai posé dans le sound system, le CD. Obili est écœuré des fruits que donnent les arbres de son quartier. Strange Flow.
Franck Sylvestre, je me souviens.
Oui, ça, c'est je devrais en faire autant, celle-là qu'on vient d'écouter. Ah!
Samuel,
j'ai que deux morceaux de Franck Sylvestre.
Non, j'en voyais trois. Non, ça va. Et on continue là, Ivano. Je devrais en faire autant.
C'est ça.
Il y a Je me souviens et puis il y a le rêve de Yomandé qu'on a écouté le tout. Ça, c'est la plus courte là.
Oui, le rêve c'est de Yomandé. Oui. Je me souviens, c'est autre chose. C'est un hymne d'amour pour le Québec. Ouais, c'était un hommage à Pierre Falardeau.
Oui.
Ouais, j'ai rencontré Pierre Falardeau dans les premiers temps de mon arrivée au Québec. J'ai joué dans son film Avis Graton 2. Et ça a été une des premières auditions qui est passée ici au Québec. Et je commençais à écrire un texte sur cette expérience-là. Cette rencontre de Pierre Falardeau, mon arrivée ici au Québec, parce que les deux se mélangent. Et c'est drôle parce que j'écrivais le texte et à la fin, je ne savais pas comment le terminer, ce texte-là. Je n'avais pas de fin et je laissais en suspens. Et je quitte Montréal un petit peu, je m'en vais habiter sur la rive sud. Et là, j'apprends la mort de Falardeau à la radio. Et puis, j'ai ma fin. Mmh. Et encore plus surprenant qu'à peine un mois avant, je croise Pierre Falardeau à la SAQ, puis on s'arrête, on discute un petit peu. Et puis,
cette pièce, je la connaissais avant de t'inviter. Hein. C'est pas la première fois que je l'écoutais. Hein.
Laquelle ?
Je me souviens.
Ah, je me souviens.
Beaucoup
oui,
de ta
oui.
pièce.
Oui, oui.
Puis tu penses que parce qu'on te voyait pas, je te suivais pas musicalement. Tu penses que je te suivais pas, quoi.
Non, alors,
on va parler, parce qu'on n'a pas assez de temps, on va parler de ton événement du 28, là.
D'accord.
Oui. Tu vas nous parler un peu. L'envol de Solibo.
L'envol de Solibo.
Oui.
Ça, c'est un...
Tu as écrit toi-même ce conte-là.
Je ne l'ai pas écrit. Je l'ai réécrit parce que c'est une adaptation d'un roman de Patrick Chamoiseau.
OK.
Voilà, un auteur martiniquais, un fabuleux auteur, poète, sociologue, historien, créateur. Il est fabuleux. Un grand, grand, grand artiste, oui. Et alors, ça s'inscrit dans un triptyque que je prépare sur son œuvre.
Triptyque.
Un triptyque, trois volets.
C'est alors, quand j'ai repris. Triptyque. quand j'ai repris là-haut. Hein.
Oui, oui, oui.
Là, on monte les trois doigts, là.
Oui, oui, il y en a trois. Le premier, c'est Le Fossoyeur. J'ai adapté son premier roman qui s'appelle Chronique des Sept Misères. Ça, c'était il y a quelques années déjà. Mm-hmm. Le volet 2. L'envol de Solibo, j'ai adapté son roman qui s'appelle Solibo Magnifique, celui qui fait l'objet de, voilà, du spectacle dont on va parler. Mmh. Et puis, j'ai le troisième volet qui va s'appeler un titre magnifique, La matière de l'absence. Lui, il parle de toute sa mémoire, que ce soit sa mère, son enfance, le pays, l'humanité au complet. Et puis, il fait tout un cheminement sensoriel là-dedans.
Mais
et...
tu m'as fait découvrir presque toutes ses œuvres.
Oh, à peine. Mais
quand tu auras fini ça, tu vas toujours continuer peut-être avec lui, mais avec d'autres écrivains aussi, mais pas seulement lui. Quoi. Mais tu feras découvrir une bonne partie de son œuvre.
Ah, ben en tout cas, oui, ça va faire découvrir son œuvre. Mmh. Écoute, moi, l'idée, ce serait de jouer ces trois volets-là. En alternance, quelque part à Montréal. J'aimerais beaucoup, une fois que c'est terminé.
Alors, messieurs les producteurs,
oui.
Si vous nous écoutez, n'hésitez pas.
N'hésitez pas.
Voilà.
Et on m'a suggéré aussi de me lancer, parce que moi, quand je dis en alternance, c'est un jour après l'autre.
Oui,
on me dit, hey, pourquoi pas la même journée, les trois? J'y pense.
Il y a plusieurs possibilités.
Solibo
est conteur, ou plutôt maître de la parole. Sa chute au bord de la folie, puis son exil dans les bois. Mmh. Lui ont permis de percevoir la voix du vent, des torrents, des roches et des écorces. Ces voix ont germé en lui et sont déployées au cœur de sa parole profonde.
Oui, Solibo.
Solibo magnifique était né.
Oui.
Ah. Mais à l'heure du dernier vertige devant son public envoûté, il emporte avec lui le chemin qui relie la chair de la nature avec la chair de l'homme.
Ouais.
Et livre ses amis à l'absurdité du monde.
C'est exactement
okay, c'est beau.
Ça.
C'est toute une poésie, ça.
Oui, et c'est tragique en même temps. Voilà. On va se retrouver face à des gens, des amis, des amoureux de Solibo qui l'écoutent raconter sa dernière histoire. Ils ne savent pas que c'est sa dernière histoire qui va mourir là devant eux. Ça commence comme ça, le spectacle. Solibo meurt au début. Et personne ne comprend qu'il est mort. Il pense que c'est un jeu. Il a les yeux ouverts, il regarde la lune, il est allongé par terre. Il y a le joueur de tambour à côté qui fait un solo interminable. Tout le monde, c'est un moment de transe collective. Et jusqu'à ce qu'il y ait un vieux qui se lève, il dit mais il est mort. Il est mort. Panique générale. Oh, il est mort, on essaie de le réveiller. Tout le monde veut l'aider, mais on s'aperçoit que vraiment qu'il commence à avoir les yeux, la chair qui se rafraîchit. Avant ça, quelqu'un est parti pour chercher le médecin. Elle ne trouve pas de médecin. Elle revient avec la police. Mais la police, elle voit quoi? Qu'il y a un cadavre là, 20 personnes autour. Attendez là. Personne n'a vu qu'il est mort.
Oh là. Comme dirait quelqu'un, ce n'est pas de moi. La vie, c'est quelquefois une tragédie. Ça fait une comédie en même temps.
Exactement.
Et ça peut être sous la nuance de psycho-tragique ou bien tragique-comique. Quoi.
Oui, voilà. On est dans le tragique-comique. Là, voilà. Comment ça, là? Personne n'a vu. Mais... Oh, embarquez-les tous.
Ouais.
Et là, ça commence.
Mais c'est fou, c'est beau, ça.
Oui.
Les absents auront tort, hein.
Ah, ben oui.
Ouais. Pas dire. Une heure de spectacle.
Oui, c'est ça. Une heure dix.
Une heure dix, oui.
Oui. Et puis, on va se retrouver devant, face à l'absurdité du monde, parce que c'est les plus passionnés de ce qu'était Solibo qui étaient là devant lui, qui vont se raccuser. Il y aura des morts, il y aura... Et il se trouve que l'inspecteur principal qui va mener cette enquête complètement surréaliste, il va aller au bout de sa logique, et après, il va s'apercevoir que, en fait, c'est juste une mort... surnaturel, une mort inexplicable, Solibo est juste parti.
Ouais. Comme s'il était... Ouais, je vais le garder encore 5-10 minutes après la petite pause publicitaire pour qu'on puisse parler d'autres choses. Il ne fait pas seulement que compter, il est aussi comédien, comme il, est, il revient tout le temps. Il est slammeur, il, est aussi, il a écrit aussi des tas de livres, pas une trentaine comme son idole. Mais il en a déjà écrit.
Ouais,
t'en as déjà écrit quand même, ça, il faut le dire.
Mais il y en a un nouveau qui sort au printemps, là. Le rêve de Yomande. Oui, c'est le livre de l'audio qu'on a entendu au début, c'est tiré d'un spectacle, et le livre va sortir au printemps aussi.
Bientôt, là?
Ouais. Ah ouais, on est en train de... On a terminé la version audio, parce que c'est un livre audio,
oui.
Et les dessins sont en train de se finir, et puis d'ici le printemps, ça sera en librairie.
J'ai bien hâte de d'écouter ça, ou bien de lire ça.
Mm-hmm.
La version audio est déjà finie, maintenant la version papier qui sort bientôt.
Les deux vont sortir en même temps.
Les deux, ah oui, ok, ah, livre ouais. Audio.
Audio, c'est ça, il y aura comme un petit code pour télécharger l'audio.
C'est ça. Voilà. Alors ce vendredi 20 février, voilà, le vendredi 20 février, pas celui-là, c'est pas celui-là, là, c'est l'autre, là. 28,
c'est ça.
Aujourd'hui c'est le 20,
oui.
Demain c'est le 21, dans une semaine, un peu, voilà, quelque chose comme ça, il va se retrouver là. On va faire la petite pause publicitaire. Et puis on revient avec mon invité avant de lui laisser partir pour qu'il parle un peu de ce qu'il fait avec le slam, sa plume, comment il a fait danser, tout ça. Restez à l'écoute, à tout de suite.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Ah oui, c'est la deuxième partie de l'émission et mon invité Franck Sylvestre, artiste multidisciplinaire, comédien, musicien, conteur, slameur et auteur, est toujours avec moi. Je vais lui accorder encore. Je vais lui donner encore 5 à 10 minutes là pour parler d'autre chose que le conte, mais toujours en faisant un petit clin d'œil au conte. Voilà, et côté écriture, qu'est-ce que tu nous dis?
Côté écriture. Que dire?
Ouais.
Tellement.
Oui.
Écoute, l'écriture, c'est la base, parce que c'est la base de la production, de ce que je fais. Hein, il faut l'écrire.
C'est ça.
L'adapter ou l'écrire. Et bon, là, comme je disais tout à l'heure, j'ai un livre qui sort au printemps, Le rêve de Yomande, voilà, un livre jeunesse. J'ai plusieurs projets ouverts en même temps. Nuit, un projet de nuit que je vais... voilà, que je vais terminer là en ce moment. Je travaille avec Jennifer Tremblay dessus, l'éditrice, ancienne éditrice. Et nuit, c'est nuit au pluriel, parce que je raconte l'imaginaire de ma première nuit au Québec.
Ok.
Voilà, l'imaginaire, parce que je rencontrais Dolores Millet, je rencontrais Félix Leclerc, et puis tout, je rencontrais là. la Corriveau, etc. Alors, c'est une nuit. Et on retourne au début, après, et une autre version. Je racontais trois nuits. Trois nuits hypothétiques où je rencontrais...
Est-ce que les gens arrivent à te suivre?
Oui.
Ouais.
Mais il faut que je les emmène avec moi. J'ai déjà testé cette première nuit dans une soirée de conte. Et puis, ça a très bien fonctionné. Voilà, dans ma folie imaginaire, mais les gens sont embarqués. Et j'adore c'est cette rêverie-là, proposer cette rêverie qui est à cheval entre la réalité, parce que je prends l'avion et puis j'arrive.
De toute façon, toutes les folies ne sont pas folles.
Hein. Et puis, si on commence à se demander c'est quoi de la folie, là,
voilà.
Qui est fou en réalité.
Voilà.
Mais je suis en train d'écrire ce projet-là en ce moment. Et le gros, ça va vraiment être la matière de l'absence qui va vraiment me demander d'aller fouiller, parce que je vais adapter cette structure de Patrick Chamoiseau, qui parle de sa mère, qui parle des Antilles, qui parle de son ancrage culturel, lui de la Martinique. Comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai la France. La Martinique, c'est C'est ailleurs, c'est une racine aussi, mais elle n'est pas aussi claire, directe. Mais en même temps, à quel point, où est la profondeur de chaque racine? J'ai le Québec aussi, mes enfants sont québécois. Mmh. Tout est là. Mmh. Et puis toutes ces racines-là alimentent là, le même arbre quand même. Il va falloir que j'explore ça et que j'en parle. C'est vraiment une parole qui voudrait proposer un avenir de tout ce monde-là qui circule, qui est là maintenant. Tu sais, le monde, les gens ont beaucoup voyagé, plusieurs générations s'accumulent.
Qui est là, est vivant.
Oui. Voilà. Mm-hmm. Et alors, voilà, où on va, comment on organise tout ça, comment on intègre tous ces imaginaires, toutes ces cultures, tous ces... À quel degré les enfants qui sont nés là, des fois ici, s'identifient plus à la culture du pays des parents, sans même des fois y avoir posé les pieds? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... C'est étrange. Et alors, essayer d'explorer tout ça.
Oui, c'est pas facile.
C'est pas facile, c'est un des pans du spectacle. Et ça va être vraiment une belle exploration.
Ah oui, quand je pense aux enfants nés ici qui se réfèrent, comme tu dis, s'identifient avec le pays de... pour l'origine de leurs grands-parents.
Oui.
Toi, ton cas spécial. Et ils ne sont jamais allés en Martinique, ces enfants-là.
Oui.
Toi, tu n'es jamais allé avec eux là-bas. Et puis, non, mais ils se disent, ça est dans le sang, quoi. C'est l'ADN.
C'est l'ADN.
Ouais.
Et en même temps, tu vois, c'est sûr, c'est l'ADN. Mmh. C'est dans le sang, c'est dans la maison, c'est ça, c'est l'imaginaire aussi de tout ce qu'on transporte. Mais après ça, ils ont quelque part, il y a un monde à construire, un monde cohérent à construire, parce que là, on parle de la culture noire, mais il y a la culture indienne, la culture arabe, la culture quoi que ce soit qui est là. Et il y a un futur à s'inventer tous ensemble.
Ouais.
Tu vois? Alors, c'est une grande question,
Écoute,
il y a la matière de l'absence, ça va entre autres parler de cet instant, ce moment qu'on doit créer tous ensemble. Ça va parler de ça aussi. Tu parlais d'autres choses aussi. Okay. Tu as parlé de mon père aussi, par exemple. Mon père qui, lui, est parti en Afrique, martiniquais. C'est des trajets vraiment spéciaux. Martiniquais, qui a vécu la majeure partie de sa vie en France, à la retraite, qui va en Afrique, au Sénégal, et qui finit sa vie là-bas, qui meurt là-bas, qui est enterré là-bas, sans jamais être retourné en France une seule fois, ni en Martinique une seule fois. Et peut-être même qu'il est retourné dans le village originel, peut-être.
Si tu fais des recherches, tu vas les découvrir.
Mais et c'est tout ça qui est spécial.
À toi de faire ce travail-là.
Oui, oui, oui.
Oh, à toi de faire ce travail-là.
Tu vois, alors, la matière de l'absence.
Peut-être qu'il a su, sans te le dire, c'est possible.
Peut-être qu'il a su, s'il s'est arrêté à cette place-là.
Voilà, et peut-être qu'il a su sans en parler, quoi.
Oui, peut-être. Alors, voilà, il y a tellement de sujets... Où l'artiste doit se mettre en moment de vérité. Il y a un moment donné où il faut s'éclaircir, il faut se mettre à nu quelque part.
Ouais,
tu vois.
Il n'y a pas de danger là, dans ce cas spécifique, non, en danger. C'est
oui,
pas
vraiment, en danger, mais je veux dire, en vulnérabilité.
En vulnérabilité, là, c'est autre chose.
Voilà. En vulnérabilité, parce qu'on a tous des codes, on sait comment raconter des histoires, on sait comment faire rêver un public.
Et de toute façon, là, tu le fais très bien, tu le sais.
Oui, mais au-delà de ça, dans un projet comme celui-là, il va falloir que moi-même, je sois mon juge sans compromis, sans...
Ah oui, mais faut pas te tyranniser non plus.
Parce que je veux aller ailleurs.
Voilà, faut pas aller jusque-là.
Je veux aller...
Laisse-moi faire une petite donnée, un aperçu de tout ce que tu as écrit jusqu'à présent.
Voilà.
Compte du ciel et de la terre, à Montréal.
Ah
d'être
oui.
belle. C'est quand s'y passent les trucs qui se lisent très bien. Hein.
Oui.
Et puis, Diabunda, oui, le lion, illustration de Yves Dumont.
Oui,
Montréal, l'édition de La Bagnole 2014.
Oui.
Ouais, L'incroyable secret de Barbe Noire.
Ouais.
L'illustration de Enzo.
Oui. Barbe Noire.
Planète Rebelle aussi. Et 2016. Oui, et puis quoi encore? Il y a Le Lion et le Singe.
Le Lion et le Singe.
Ouais, ouais. Oui, l'illustration de Élise Castellan.
Oui, une femme que j'ai jamais rencontrée, tu vois. Parce que c'est une Belge. Et puis ça s'est fait vraiment par l'entremise de la maison d'édition. Et puis on a parlé, on s'est échangé.
Oui.
J'ai jamais rencontré. C'est drôle.
C'est 2020, ça. Mm-hmm. Et puis les contes, Histoire slammée.
Histoire slammée.
Montréal Planète, ouais, Parole.
Qui va être réédité.
Qui va être réédité.
Ouais. Oui. Sous le titre « Âme en exil
ouais. ».
Parce qu'il y a le spectacle qui porte ce nom-là.
Oh, interprétation, Grindel et le bouc de Noël.
Ah oui, tiens, j'avais oublié ça.
T'as oublié ça. Ah, oui. Je suis allé chercher.
Ah oui, ouf. Tu es un agent secret. Hein.
Planète, comment dirais-je, sacré cœur de...
Sacré cœur de Gilgamesh.
Gilgamesh.
Oh, quelle intensité.
De Nadine Walsh.
De Nadine Walsh, oui, c'est ça. On a monté le spectacle, on a édité le livre. On a raconté la plus vieille histoire de l'humanité. Mm-hmm. Dans la Mésopotamie, en Irak, ils ont retrouvé cette histoire sur des tablettes d'argile en 1960. Et ils ont mis des décennies à traduire ces tablettes-là. Et quand ils ont réussi à traduire, ils ont vu qu'en fait, c'était un bout de la Bible.
Pas la nouvelle, l'ancienne. La vieille Bible.
En fait, l'histoire de Noé, elle était là en Mésopotamie il y a 5000 ans.
Ah ouais, bon,
ben, ah, tu vois, comme les contes. Ouais. Après ça, qu'est-ce que l'imaginaire humain. Et puis, il y avait d'autres choses. Il y avait Enlil, il y avait dans un univers où il y avait plusieurs dieux, où il y avait. C'est vraiment une histoire fabuleuse.
Une histoire, ouais. Et puis, les contes d'Afrique de Aboubakar Adam Baba et. Oui. Très belle aussi. Oui, 2019, oui. C'est très récent ça. Et en musique, tu nous as sorti, là, je me rappelle bien, il faudra bien qu'un jour avec Guillaume Soucy. Comment il va, Guillaume?
Ah, il va très bien, tu connais Guillaume?
Oh, arrête là. Oui. il traîne aussi avec Fabrice, non?
Oui, c'est vrai. Ben, voilà.
Ton compère.
Oui, voilà. C'est ça. Je connais Guillaume.
Oui.
Ah, il est tellement extraordinaire. Oh, c'est lui qui a composé la musique qu'on a entendue tout à l'heure, qui a composé toutes mes musiques.
Et lui, il nage là-dedans, là. C'est son milieu, là. Ouais.
Ah, oui, ça.
C'est parce qu'il adore vos plumes aussi. Hein.
Oui, sinon, il ne pourrait pas. C'est vrai, parce que lui, il s'inspire d'abord du texte. Et puis, il écoute, il lit les textes.
Il adore vos plumes aussi.
Oui, puis il est sensible. La littérature en soi, et puis il prend du temps pour vraiment comprendre chaque mot, et puis il est fabuleux.
C'est pas un ami, mais quand on est dans le milieu culturel, c'est pas évident. On connaît tous ces artistes qui sont, moi je les appelle les artistes requins, comme ceux qui sont dans les studios d'enregistrement qui jouent avec plusieurs artistes qui accompagnent tout le monde. C'est un requin, lui.
Ouais, ah, voilà. Il est professeur d'université maintenant.
En plus, faut pas l'oublier. Mais il s'adapte. Quand je le vois avec toi, ou bien quand j'entends ça, et puis quand je le vois avec Fabrice Coffi, ou bien avec d'autres artistes, j'ai dit, mais ce mec, c'est un musicien requin. Il peut ouvrir un studio et puis il va accompagner tout le monde, lui.
Lui, là. Et ce qui est impressionnant, c'est que. Il creuse tellement que lui, il dit, moi, je ne veux pas qu'on me reconnaisse d'un projet à l'autre.
C'est ça.
Sa marque, c'est ça.
Il fait le distinguo, quoi.
Il plonge dans les projets et il fait en sorte qu'on reconnaisse. Ce n'est pas du souci.
Non.
Il est vraiment à se renouveler.
C'est ça. Avant de te laisser partir, on va parler au moins des prix et des honneurs que tu as déjà eus. Hein. Tu as tout un parcours. Ouais, pourquoi? Il faut qu'on en parle quand même.
Bon, parlons-en un petit peu.
2017, lauréat du prix de la plume de Pan, livre disque pour l'incroyable secret de Barbe Noire.
Oui.
Bravo.
Ah ben merci, merci.
Et en 2018, en nomination pour le prix des petits Molières pour Le Fossoyeur.
Le Fossoyeur, oui, c'est ça en France.
Ouais, et en 2021, lauréat du prix coup de cœur de l'Académie Charles Cros.
Charles Cros, oui.
Catégorie conte pour Le Lion et le Singe. Mmh. Bravo, félicitations.
Ah ben merci. Et pour la première fois aussi cette année, je vais être au Gala Dynastie.
Gala Dynastie? Ouais, si tu peux en parler, de toute façon, je vais en parler ici. Et la Fondation Dynastie, d'ailleurs, pourquoi il ne fallait pas le dire?
Parce qu'on n'a pas encore dévoilé. Oh,
je vais en parler de toutes les façons. Et ils ont sorti, d'ailleurs, j'ai reçu un courrier aujourd'hui qui parle de Sommet Dynastie. C'est la deuxième édition.
Voilà. Sommet Dynastie, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est la rencontre des artistes noirs de la province du Canada qui se retrouvent là. Pour parler de leur parcours et puis se tendre les mains pour travailler ensemble, tout ça.
C'est fabuleux ces moments-là parce qu'on se rencontre et puis on se connaît parce qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant noirs et on se connaît pas tous.
J'étais à la première édition et puis d'ailleurs moi je leur avais dit après l'événement il va falloir que ça continue. Hein. Bon, mais j'étais très content de voir ce truc-là qui a le communiqué aujourd'hui. Je me suis dit mais c'est génial, je vais en parler même à la fin. Merci beaucoup à toi.
Merci Fulgence.
On a fini, je ne te garde pas toute l'heure d'émission. Je te donne au moins 15 minutes de plus encore.
Ouais, oui, mais moi,
on pouvait même passer des heures et des heures en train de parler, d'échanger comme ça.
C'est vrai, c'est vrai. Mais tu mets tellement une ambiance aussi qu'on oublie le temps.
Oh là là,
c'est toi le griot, le griot de la famille.
Ah, non. Tu me fais prendre la balle au bon, c'est tout. Quoi. Je t'écoute et puis bon, ben, je te laisse aller. Quoi.
Voilà, ben, écoute.
Merci beaucoup.
Merci.
Bon spectacle le 28. Et puis, tout nous revient. Il faut que tu reviennes me voir là quand tu sors ton album et ton livre. Là,
oui, le livre jeunesse.
Bientôt, là.
Oui, au printemps.
Au printemps, là. Il faut que tu repasses nouveau avec ça. Avec
super.
Des copies. Et afin qu'on puisse faire découvrir ça à nos auditeurs,
ceux qui
nous suivent.
Super.
Merci, France.
Eh bien, grand plaisir.
Franck Sylvestre.
Merci,
artiste multidisciplinaire, comédien. Il n'a pas oublié mon nom de famille. Merci.
Salut.
Ouais. Claire, je devais foutre le camp. Qu'ailleurs, les choses se passeraient autrement. Alors, j'ai quitté cette ville en guerre civile. T'inquiète pas, c'est pas la Syrie. Non, c'est pas la Syrie. C'est un coin de pays joli. Une vieille ville, très jolie. C'était donc une guerre jolie, mais pas très belle. Spécialisé dans le mélodrame, ce qu'elle aime, c'est écorcher les âmes. Et si tu manques de racines, de rêves, de parents ou d'amis, je te jure que tôt ou tard, tu prendras la rue, le gun ou l'héroïne qu'elle te tend. Été 98, je débarquais de la banlieue de Paris. À cette époque, le plateau Mont-Royal naviguait entre deux eaux, entre l'ancien et le nouveau. Le deuxième nom, il a des barques, des libéraux, un air de la Bolduc, un air de Quinte Nagano. À deux pas de ma maison, de la rue de Bullion, je me suis assis au soleil pour apprendre un texte, un rôle pour un film, un drôle de film. C'est ma première audition au Canada français. Sans rien connaître du projet, j'y vais, je l'ai. Ça commence comme ça, cette histoire-là. Été 98, je suis engagé pour jouer dans Elvis Graton 2. Tournage, rigolade, et puis voilà, on se connaît. Il s'appelle Falardo, Pierre Falardo. Et le temps passe, c'est tout ce qu'il sait faire. Il passe sans en avoir l'air. Échange mes amours, mes questions sur l'avenir contre des souvenirs. Au fil des mois, on se revoit. Et chaque fois, ben, on jase. Une pointe de blues au creux de ses phrases. Il rêve qu'il libère son pays, tandis que moi, j'y refais ma vie. Chacun pour soi, on efface l'ardoise de la fatalité. On échange des chiffres désespérés par une fleur de lys, une odeur, un printemps. Et puis salut là, on s'en va en rêvant. Clopier-clopant, clopier-clopant. Il habite par là, dans une rue de quartier. Aussi à la campagne, il écogite ses pamphlets. Il chassait les animaux avec un arc et des flèches comme un gland. Éduqué par des sauvages sans alphabet. Le film, pourquoi je n'ai pas trouvé ça si drôle? Je sais pas. Peut-être que j'étais trop jeune arrivant. Pas évident d'apprivoiser un si grand pays. Ça prend du temps, du travail, du talent, de l'envie. Du travail, du talent, de l'envie. Mais heureusement, de temps en temps, y a un gars comme lui qui ouvre les bras. Juste comme ça pour le plaisir d'aider. Juste comme ça pour la noblesse d'aimer. Et ça, tu vois, ça aide les gars comme moi à poser un pied plus franc au French Canada. Et le temps passe, c'est tout ce qu'il sait faire. Il passe sans en avoir l'air. Échange mes amours, mes questions sur l'avenir. Au fil des mois, j'entends de plus en plus parler de toi. Ouais, je te vois à la télé, tu défends tes idées comme un forcené. Ils disent tous que t'es fou, mais c'est vrai que parfois t'as l'air givré. Mais le fou du roi, c'est le seul qui dit la vérité. Et moi, enfant fou de fumée, d'expérience et d'absence, j'enivrais de mes chants les sirènes solitaires. Elle s'attachait au mât de mon embarcation, scrutait l'horizon de mon radeau de fortune, espérait y voir...
Oui, c'était la voix de Franck Sylvestre. On entendait là comme ça, voilà. Allez, bon, ben, on va continuer l'émission, bien sûr. L'invité est parti, mais l'émission continue pour les dernières minutes qui nous restent. Cette semaine, l'Afro-Musée qui propose un programme diversifié quand même passionnant, mais je vais parler d'un spectacle spécifiquement dans des expositions, des échanges culturels et des moments inoubliables sont au rendez-vous là-bas à l'Afro-Musée. L'Afro-Musée qui est situé sur Ontario Est, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas compliqué, c'est juste à côté de nous ici. 533 Ontario Est Montréal, c'est là que se trouve l'Afro-Musée. Et il y a Mamadou Diabaté, c'est un Burkinabé qui vit en Autriche, en Europe. C'est un balafoniste, il joue au balafon, c'est un maître balafon. Et Lassou Sano, un Burkinabé qui vit ici à Montréal, au Canada. C'est un flûtiste, un choraliste aussi, un percussionniste. Mais moi, c'est lui qui m'a fait découvrir la flûte Peul. Je n'avais jamais vu cette flûte-là à l'époque. À l'événement Vivement Poésie, je l'avais invité. Il était venu ébloui, épater les gens avec sa flûte Peul. Tu as l'impression qu'il est en train de parler, quoi. Parce que, voilà, il parle dans la flûte, comme ça. Ça va être sur le samedi 21 février. Demain, vendredi 21 février 2025. Là, c'est à partir de 20h, l'Afro-Musée. Qui est juste là, je reprends l'adresse, au 533 Ontario Est. Allez-y, déplacez-vous en très grand nombre pour aller les voir. Balafon rythme. Et l'asso, il joue aussi au balafon. Hein. C'est pas seulement de la flûte, de la percussion et de la cora. À 20h, c'est parti de l'événement. Oui. Allez-y. Les places sont limitées. C'est pas une salle de 2000 personnes. Allez-y, déplacez-vous pour aller les encourager et profiter de cette belle soirée de flûte, de balafon, de cora et de percussion. Allez, voilà. Et puis, toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, il y a au chemin de la côte Sainte-Catherine, 551-70, le Black Theatre Workshop qui célèbre le mois de l'histoire des Noirs avec la production de Vierge de la dramaturge primée Rachel Mutombo. Jusqu'au 2 mars 2025. Ah, ça continue. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la plus ancienne compagnie de théâtre noir au Canada. Black Theatre Workshop, BTW. Qui est fière de présenter Vierge, cette nouvelle pièce captivante de la dramaturge montréalaise, primée Rachel Mutombo. C'est une production plonge dans la dynamique complexe d'ailleurs d'une communauté congolaise canadienne, explorant les thèmes de la politique de respectabilité, de la sexualité, de la spiritualité et de l'apparence à travers les expériences de 4 adolescentes vierges. Vierge est présentée du 12 février depuis le 12 jusqu'au 2 mars au studio du Centre Ségal des Arts de la Seine, conformément à sa mission de promouvoir et de produire un théâtre exceptionnel qui éduque, divertit et inspire. Faites le déplacement là, hein, jusqu'au 2 mars. Allez-y voir. Voilà. Je redonne l'adresse là. 5170 chemin de la côte Sainte-Catherine à Montréal. Centre Ségal des Arts de la Seine studio. On va en musique.
Quello che siamo o è gopimo ma per questa cosa siamo fulminati ma ama noi amo noi amo io magi fighting. Behind every successful man, oh, there is a good woman. Oh.
Better woman,
not there for market. Give you to see he can.
Better woman,
not there for love, you know, go see him.
Better woman, instead of to value for fancy, we got to love again.
Ouais, on était comme ça au Nigeria. Avec qui? Avec un duo. Pissi Lapez et le grand Oumu Obiligbo. Bella Woman, c'est le titre de la pièce. Voilà, rapidement, un petit communiqué avant de passer à la dernière pièce musicale et du au revoir en même temps. Maputo Mozambique par la compagnie Thomas Guérino. Guérino. Maputo Mozambique qui incarne une fusion dynamique de mouvements, de jonglerie, chant et percussion. Cette création offre une liberté totale aux interprètes, générant des performances spectaculaires et inattendues. Initialement formé lors d'un stage jonglerie de jonglerie à Mozambique en 2011, ce spectacle a surpassé ses objectifs initiaux, accumulant plus de 200 représentations à travers le monde. C'est beaucoup quand même, ouais. Entre bon et percussion, jonglerie et des sacs plastiques, balais, massue. C'est chaque représentation était une exploration vivante et innovante aux frontières de la danse. Ça a commencé, ça se passe où? La Tohu, depuis le 19 jusqu'au 22 février, à 20h. Voilà, allez-y. Hein. Ouais. Tohu.ca. Pour voir toute la programmation là-bas, allez-y les encourager. Maputo Mozambique, compagnie Thomas Guérino. On termine en beauté, en musique? Ouais, avec une jeune néerlandaise, hollandaise si on peut l'appeler, mais ses parents sont d'origine ghanéenne, elle est née là-bas comme les enfants de France. Sylvestre, mon invité, hein, fait partie d'émission. Elle est d'origine, ses parents sont d'origine ghanéenne, elle est née en Hollande, c'est fait de... du R&B, de l'Afrobeat, Nana Fofi. On l'écoute. Merci à toi, Samuel. Et puis, merci à Franck Sylvestre et merci à la recherche de l'émission et à nos fidèles auditeurs et auditrices. On termine en beauté avec Nana Fofi, Runaway. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vos minutes. Ciao.
But I trust no liar. Never got cold feet, I ran through fire. Never trust a liar. Just a little care, my heart desire. Can't run away from all my problems. I'm weighing all the options. You twisted, turn your back on me. Wanna return out, you again. Well, you already heard me. You already heard me. Yeah. Well, you're holding me hostage. Picks on me, testing my conscience. But I know that my mind still functions. I was just in my head, trying to run away. Ain't got hurt any process. Promise this time I'm cautious. Feet, I ran through fire. Never trust a liar. Just a little care, my heart desire. Can't run away from all my problems. I'm weighing all the options. You twist and turn your back on me. Return out, you're begging me for mercy. For mercy, what you already earned.